Un papillon peut-il sauver une vie? Un papillon vous a-t-il sauvé la vie, Christian Bobin?
Sans aucun doute. Et le papillon avait forme de poème. Si par poème on entend la parole qui tranche et qui fait que il y a avant et après. Vous venez de passer, vous venez d'inviter la voix déchirée, un peu grinçante de Léo Ferré sur ce très beau poème d'Aragon. Et moi, j'avais été, il se trouve, on n'en a pas parlé, mais que j'avais été fortement marqué dans ce temps très incertain qu'on appelle l'adolescence, dans ce temps où on est sur le rocher au-dessus de la falaise, comme ça, on est battu par tous les vents du diable. J'avais été touché et sauvé par certains poèmes et intrigué par la parole qui est dans cette chanson et dans le poème. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. Je connais très bien les endroits où on met les morts à table. Ça s'appelle souvent une famille. Et pour sortir du silence, pour que sur la table il y ait une vraie nourriture et de vraies paroles et de vrais visages, je pense que c'est comme ça que je suis allé vers l'écriture, c'est pour ça que je suis allé vers l'écriture et c'est pour ça que je me suis aussi noyé pour me sauver dans la lecture.
Dans un de vos livres, Christian Bobin, vous restituez avec beaucoup de grâce et de précision votre chambre de la haute enfance. Vous dites que dans cette chambre, de la fenêtre de cette chambre, vous voyez des hortensias bleues, vous en décrivez l'odeur, vous décrivez aussi le bout de ciel que vous pouviez entreapercevoir, mais il y avait aussi ce papillon, et on a l'impression que ce papillon vous a sauvé la vie dans le sens où il vous a donner la sensation de vivre.
Et
Il était libre, lui.
il était libre et il avait cette qualité essentielle à la vie qui pour moi pour le pauvre cœur que j'ai, la vie est double et doit être dotée de ces deux vertus, la gravité et la légèreté. Et si la gravité est là, la légèreté, c'est la clé du royaume, c'est la grâce absolue. Et effectivement, voir, c'est peut-être une vue d'un prisonnier aussi, d'être réjoui par si peu. C'est peut-être une vue d'un prisonnier, mais c'est déjà une échappée belle.
Vous dites, dans ce dernier ouvrage qui vient de paraître, qui s'intitule La nuit du cœur, que vous avez commencé à écrire dès votre naissance.
Oui. Avec des toutes petites mains comme ça, potelées. Je crois que on pourrait comparer la naissance à un bombardement. Vous apparaissez et vous recevez sans être prévenu une seconde et sans qu'on vous laisse une seconde de répit et sans abri possible, vous recevez une avalanche de visages, d'odeurs, de lumière, de bruit. Et le recours, la voie du désencombrement, pour moi, ça a toujours été la parole, comme j'essaye de l'avoir comme ça, en parlant de cette façon-là ce soir, et l'écriture. Et les deux étant d'ailleurs au fond très proches, très, très cousines l'une de l'autre, très cousines. Donc j'ai commencé, bien sûr c'est une image, mais j'ai commencé à chercher la respiration dans les mots et dans leur précision.
Et par l'écriture, vous pouvez vous souvenir de votre naissance.
Ah, je crois que c'est tous les jours. Je crois, non pas que je me souvienne, mais que je nais. Je crois que c'est que chaque fois qu'une phrase vient. Pour peu qu'elle ait ce qu'il faut de vent, d'air, pour peu qu'elle batte comme ça, comme un drapeau un peu déchiré par je ne sais quelle bataille, mais qu'elle batte dans l'air et qu'elle ait la vigueur d'une petite flamme, cette phrase me remet au monde. C'est sans cesse.
Cesare Pavese, grand écrivain, disparu il y a maintenant assez longtemps, a écrit un livre qui s'appelle Le métier de vivre. De la vie, Christian Bobin, dans vos livres depuis maintenant une bonne trentaine d'années, vous parlez sans arrêt, vous écrivez sur l'intensité de la vie. On a l'impression avec vous que c'est un dur métier que de vivre et que nous devons réapprendre à vivre chaque matin.
Oui, c'est parce qu'il faut en redevenir le maître de ce métier. Il faut se forger ses propres outils. C'est un métier d'artisan au fond. C'est un métier d'artisan. On pourrait parler des travaux légendaires des boulangers au cœur de la nuit. Et comment ils vont chercher dans la gueule du feu de quoi nous nourrir, nous, le matin. Et on pourrait aussi parler, pourquoi pas, de certains religieux qui se lèvent à l'heure où l'humanité, fatiguée, se peine à trouver le sommeil. On pourrait parler de ces choses comme de nuit qui vont chercher le clair. Les choses qui se font de nuit et qui cherchent la clarté. Et en la cherchant, la trouve, parce qu'elle est dans cette recherche. Elle n'est nulle part ailleurs.
Alors, je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à écrire de la poésie, Christian Bobin, mais ce que je sais, c'est que avant d'écrire et d'être publié, donc, vous avez fait différents petits jobs. Vous avez travaillé en tant que sociologue et puis vous avez travaillé dans un hôpital psychiatrique en tant qu'infirmier. Et j'ai l'impression, en lisant vos textes, encore aujourd'hui, celui-ci en témoigne aussi, que cette expérience dans l'hôpital psychiatrique a été déterminante pour vous.
Je crois. Elle était très, très brève, mais je suis ainsi fait que j'ai besoin juste de deux battements de cils pour voir. La vision naît entre deux battements de cils pour moi. Et cette expérience a été de très courte durée. Ce que j'ai éprouvé, c'est que ceux qui machinalement prenaient soin des souffrants étaient comme enfermés dans leurs habitudes et dans leur protection. Ce qui compte, c'est de prendre soin du langage, prendre soin de l'autre, prendre soin de la clarté qui vous est offerte par une fenêtre ouverte. Prendre soin simplement de choses comme ça, c'est pour moi, c'est le maître verbe, prendre soin. Et j'ai vu dans ces établissements qu'il y avait d'un côté, j'ai vu la souffrance, la souffrance en plein jour dans les yeux des malades. J'ai vu ce qu'on appelle la folie. J'ai vu ça. Et j'ai vu que c'était juste d'avoir fermé à clé une pièce où personne ne se trouve d'ailleurs, étrangement. Pas même celui qui souffre de cette fermeture. J'ai vu ces choses-là. Et puis, il me semble que l'écriture peut aussi apporter quelque chose à cette matière souffrante. Il me semble que l'écriture a quelque chose à voir avec la démence, avec la santé, avec la nuit du monde. Il me semble.
Où vivez-vous ?
Dans une forêt. Dans une forêt, pas très loin de la ville où je suis né, le Creusot. C'est une ville assez petite, rude, avec des générosités cachées. Et puis, à 10 km, 15 km de là, il y a une forêt qui conjugue les deux adjectifs, les deux verbes du Morvan déjà, c'est-à-dire les fougères et le granit. C'est une forêt en demi-cercle autour de la... Et la maison est dans une petite clairière, pratiquement fermée. Et ne passe là en visite principale que des nuages ou parfois un renard, de loin en loin un renard, beaucoup de geais, et puis quelques daims ou des animaux comme ça.
Qu'il ne soit plus jamais question du monde, de lui je ne veux plus entendre parler, des gens oui, des métamorphoses de leur visage, de leurs anesthésies spirituelles et de leurs sursauts de réveil oui, et leurs paroles brusques comme une patte d'ours. mais le monde, ce plancher pourri sur leurs pieds, qu'il aille au diable. Vous êtes coupé du monde ?
C'est le contraire. C'est le contraire, je crois. Je suis relié par ce retrait. Je suis relié par le silence des nuits où je peux écrire sur une longue table de chêne ou sur une toute petite table dans une autre pièce, une toute petite table étroite avec toute vérolée par des taches d'encre. Je suis relié par ce silence, par cette solitude relative et par la proximité des livres sommeillants faussement à mes côtés, en vérité éveillé, les livres des auteurs que j'aime. Je pense que quand vous faites un pas de côté, vous ne quittez pas le monde, vous commencez enfin à le regarder dans les yeux. Quand vous êtes pressé contre lui, vous ne le voyez pas, vous ne vous voyez plus vous-même, vous ne savez plus rien, vous êtes comme affolé, pressé de tous côtés d'injonctions qui sont dites par personne. Vous vous reculez un tout petit peu, il n'est pas nécessaire, indispensable d'être dans une forêt pour cela. Vous vous reculez un tout petit peu et vous commencez à faire entrer en vous assez d'absence pour mesurer ce que c'est que la vraie présence, que la pure présence, la présence juste, et donc ce que c'est que le monde.
Vous avez la télévision ?
Oui. Je la regarde pour beaucoup, pour les informations et quelques documentaires. Il y a une radio aussi, mais rien d'autre. Mais vous savez, de toute façon...
Un ordinateur ?
Non.
Internet ?
Non.
Pas de réseaux sociaux ?
Non.
Indispensable, ce retrait, pour continuer à écrire, Christian Bobin ?
Je ne sais pas si c'est indispensable. Je sais que c'est. Il me semble que la fréquentation des écrans fatigue beaucoup les gens, les fatigue et nous fatigue. Et cette fatigue-là, au moins celle-là, je ne la connais pas, pratiquement pas. Je sais ce qui se passe dans le monde parce que vous pouvez pas. Personne, même quelqu'un qui vivrait dans un tronc d'arbre. Comme dans certains tableaux de Bosch ou certaines images qu'on peut avoir des ermites, même quelqu'un qui vit dans un tronc d'arbre, eh bien les pivers viendraient lui apporter un télégramme, voyez, et pour lui dire les dernières nouvelles. Le monde, ça rentre chez vous. Le monde, c'est ce qui rentre de toute façon. Et vous l'essentiel, vous le savez. Et puis vous ouvrez par exemple un écran de télévision et vous voyez des informations, vous voyez les visages. Vous pouvez les peser, les visages. Vous pouvez les peser. Vous voyez combien ils sont en danger d'être effacés, combien l'humain est en danger. Et vous voyez aussi, vous voyez parfois des choses très très belles, très très belles. Ça arrive aussi. Tout est mélangé. Mais ce ne sont pas les machines qui vont m'apprendre quelque chose. C'est peut-être le bruit de mon propre cœur qui va s'affoler parce que j'ai touché une phrase qui tout d'un coup se met à vivre. C'est peut-être ça qui me renseigne sur la totalité de nos vies. C'est peut-être ça.
Dans un livre précédent, Christian Bobin, vous avez cette phrase, vous dites « J'ai lu plus de livres qu'un alcoolique n'a bu de bouteille ». Combien avez-vous lu de livres et pouvez-vous vivre sans lire ?
J'ignore le chiffre parce que je crois que dans ce domaine, comme dans les autres, les chiffres ne font pas la vérité. Ils la recouvrent comme on jette de la paille sur un pavé. Les chiffres, ça m'est égal. Est-ce que je pourrais vivre sans lire? J'aurais du mal, sans doute. Mais j'aurais la souvenance des livres lus. J'aime beaucoup cet écrivain, cet Homère du XXe siècle qui était Borges. J'aime beaucoup ce voyant aveugle, comme souvent les voyants, quand sa bibliothèque murale, il n'a plus pu la voir, et quand les livres pour lui, parce qu'il était devenu aveugle, n'ont plus été que des blocs de nuit. Une bibliothèque interne, intérieure, s'est illuminée, sans doute plus grande que la bibliothèque et du Vatican, et de la Bibliothèque nationale, et de toutes les bibliothèques du monde. Ce dont je me souviens est toujours plus ou moins lié à de l'écriture, à condition d'entendre par écriture, non pas de la littérature ou de l'esthétisme, mais une vibration dans le langage de la vérité déchirante de la vie.
Nous allons écouter la voix de Francis Ponge, qui va lire son poème « La Terre ». C'est une archive ORTF du 6 juillet 1957, la voix de Francis Ponge.
La Terre, ce mélange émouvant du passé des trois règnes, tout traversé, tout infiltré, tout cheminé d'ailleurs de leurs germes et racines, de leur présence vivante, c'est la Terre. Ce hachis, ce pâté de la chair des trois règnes. Passé non comme souvenir ou idée, mais comme matière. Matière à la portée de tous, du moindre bébé, qu'on peut saisir par poignée, par pelletée. Si parler ainsi de la terre fait de moi un poète mineur ou terrassier, je veux l'être. Je ne connais pas de plus grand sujet. Comme on parlait de l'histoire, quelqu'un saisit une poignée de terre et dit « Voilà tout ce que nous savons de l'histoire universelle. Mais cela, nous le savons, le voyons, nous le tenons, nous l'avons bien en main. Quelle vénération dans ces paroles. Voici aussi notre aliment, où se préparent nos aliments. Voici notre demeure présente, la chair de nos maisons et le sol pour nos pieds. Aussi notre matière à modeler, notre jouet. Il y en aura toujours à notre disposition. Il n'y a qu'à se baisser pour en prendre. Elle ne salit pas. »
Nous venons d'entendre la voix de Francis Ponge. Vous revendiquez-vous de cette force poétique? Votre sujet, c'est la terre, mais pas dans le sens de Francis Ponge, mais vos sujets, Christian Bobin, c'est aussi la lumière, la beauté de la nature, la recherche spirituelle.
Je suis assez proche de cet homme-là, parce que je suis proche de multiples façons. D'abord par la tenue de sa voix, et qui renvoie une tenue dans l'existence, assez belle et entêtée. Et je suis proche aussi quand j'entends tout d'un coup dans le texte qui vient d'être lu par son auteur, quand j'entends qu'une poignée de terre, c'est tout ce que nous savons de l'histoire universelle. Je pourrais pas dire autre chose, je pourrais pas dire mieux. Et c'est ce que j'ai senti, par exemple, à l'abbatiale de Conques. Les insurrections souhaitables aujourd'hui, qui seront très douces si elles viennent, seront spirituelles. Et je redis, qui seront très douces si elles viennent. Les vraies insurrections, vraiment spirituelles. Je ne parle pas de religion, comme entendre bien. Mais dans ce que j'entends par spirituel, c'est incarné, c'est terrestre, c'est profondément terrestre. J'ai une soif, mais éperdue, du concret. Et si j'en veux, car j'en veux un peu, à ce qu'on appelle les algorithmes, que ces braves gens de la Silicon Valley barbouillent comme des graffitis sur le monde, si j'en veux à ces gens, si souples, si lisses, à ces poissons d'aquarium, si j'en veux, c'est parce qu'ils nous dérobent, sous prétexte de nous l'offrir, de nous le rendre présent, virtuellement présent. Ils avouent leur crime, virtuellement présent. Eh bien, ils nous dérobent le concret. Ils nous enlèvent le prochain. Et sous prétexte d'être infiniment, hystériquement reliés partout, ils nous enlèvent la personne proche, celle qui nous fait face, ou les nôtres, ou la personne, la première venue que je vais rencontrer dans la rue, dût-elle m'assassiner. J'ai une faim, mais radieuse du concret.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Christian Bobin, Thelonious Monk, Blue Hawk.
Thank you.
extraordinaire, parce que ce qu'on vient d'entendre, Thelonious Monk, on vient d'entendre un homme qui bégaye dans son savoir, qui bégaye dans son langage. Et c'est superbe de voir un homme qui risque, qui cherche. Chercher, c'est se tromper aussi. Et c'est merveilleux de se tromper de cette façon-là. J'adore cet homme. J'adore son enveloppement dans lui-même, comme on a pu l'entendre. J'adore cette manière soufie d'aller sans précaution, de chercher quelque chose, quitte à déranger tous les voisins de l'immeuble, peu importe, de chercher la note juste. Vous avez entendu, à mon sens, moi, je ne sais pas jouer de piano, et je ne connais pas je ne sais pas lire une partition, mais il frôle pratiquement des notes fausse à certains moments, mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que c'est l'homme vrai. C'est l'homme vrai qui cherche et je sais rien de plus émouvant.
Que vous est-il arrivé le mercredi 26 juillet 2017 ?
C'est... Si nous étions dans un local policier, il faudrait préciser qu'alliez-vous faire à Conques ce jour-là. Et je serais bien en peine de préciser. Ce qui m'est arrivé, c'est un tremblement de terre et le tremblement de terre et de cœur. Et vous savez, les premiers tremblements, nous n'en sommes pas informés, nous, les humains. Les bêtes le sentent. Et les bêtes s'enfuient, se mettent à l'abri. Eh bien, le premier tremblement a été inaperçu de moi. Il est entré en moi, mais je ne l'ai pas connu. Et je suis rentré d'un séjour très bref à Conques, en 2 jours avec une nuit au milieu. Eh bien, je suis rentré de ce séjour très bref, je n'avais pas pris de notes, je ne pensais pas, vraiment pas à faire un livre. Et puis une semaine s'est passée et la deuxième réplique est venue, est très puissante. Et c'est une réplique dont les ondes se sont prolongées sur le papier blanc, j'ai commencé à écrire. J'arrive pas à vous répondre. Je vous dis comment, je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Ce qui m'est arrivé, c'est de l'écriture. Elle s'est pas annoncée tout de suite. Je suis là-bas. Je suis un peu engourdi parce que ma façon de voir, c'est une façon un peu comme un gros chien, si vous voulez, comme un animal. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu un animal, un peu pris dans les propres plis de son visage, comme ça, et puis les yeux demi-clos, des paupières très lourdes, comme ça. On dirait que je ne vois pas. Moi-même, je ne pense pas que je vois, et en fait, je vois tout. C'est ma manière. Peut-être c'est ma manière de recevoir que de me mettre en une sorte de somnambulisme comme ça. Le somnambule que j'étais est allé à Conques ce mercredi-là. Il a dormi sur place. Il est revenu. Et puis le réveil a eu lieu une semaine après. Et le réveil pour moi, il a pris cette figure absolue de l'éveil qui est l'écriture.
Il y a eu aussi l'ange, Christian Bobin.
Oui. Il y a eu alors.
À quoi ressemblait l'ange que vous avez vu ?
L'ange que j'ai vu, je vais préciser que quand je c'est toujours un petit peu, ça risque toujours d'être un peu soporifique les mots de ange ou ces mots comme ça. Moi, ce que j'entends par là, c'est ce qui interrompt la vie courante, c'est ce qui fait fracture, rupture, c'est ce qui dessille le cœur, qui ouvre les yeux.
Ça peut être une lumière, ça peut être la grâce d'un instant, ça peut être un vitrail.
Et c'était ces trois choses-là. La grâce d'un instant où j'ai entrevu, où j'ai vu, à travers, en me penchant par la fenêtre mansardée d'un hôtel, où j'ai vu un des vitraux inventé par Pierre Soulages de l'abbatiale de Conques. J'ai comme vu ce vitrail, je l'ai senti tellement rendu à une matière tellement tellement simple qu'il ne faisait même plus son mince travail de séparation. Je l'ai vu comme décroché de l'abbatiale. Je l'ai vu comme s'il allait rejoindre, comme en état, en désir de rejoindre ses sœurs les étoiles. C'était une nuit d'été. Qui sont extraordinaires, qui sont comme une pluie d'intelligence qui tombe même sur les idiots, même sur, parce que sur les idiots que nous sommes, eh bien, j'ai vu, vous savez, ces nuits d'été, elles, c'est une chance qui nous est redonnée à chaque fois de réfléchir vraiment et non pas abstraitement. J'ai vu une sorte de grâce que je savais faite de verre, que je savais faite de presque rien. Et c'est quelque chose que j'ai revu le lendemain en plein jour. C'est quelque chose que j'ai revu le lendemain en plein jour. Vous savez, il y a encore pour quelques jours, il y a une exposition de l'œuvre peinte de Pierre Soulages au Creusot. Et j'ai eu l'occasion de la voir maintes fois. Ce que fait cet homme dans ce qu'il appelle les Outre-Noirs, c'est pas tant un travail de peintre que de charpentier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui resserre, qui refait la toiture de l'esprit. Il y a une autorité et une décision dans chacun de ces tableaux. Une autorité et une décision qui guérissent la vue et le cœur.
Ben, je vous propose de l'écouter. Pierre Soulages, c'était le 28 mai 2011. Il parlait de la lumière.
Déjà, oui. Le noir, je dirais plutôt déjà la lumière. Parce que l'histoire qu'on me raconte, je ne m'en souviens plus, bien sûr. Je devais avoir 4 ou 5 ans. J'étais en train de tracer de grandes lignes noires sur du papier blanc. Et quelqu'un m'a demandé ce que j'étais en train de faire. Et j'ai répondu de la neige. Et ça a paru tellement, tellement extraordinaire. Tout le monde a ri, bien sûr. Mais tout le monde s'en est souvenu. Et on me l'a rappelé. Le noir n'était pas là pour sa qualité de noir, mais aussi pour ses pouvoirs de noir. C'est-à-dire que par contraste, il rendait le papier probablement, le papier qui est gris, le papier blanc qui n'est pas vraiment blanc, ça le rendrait probablement plus blanc comme la neige. C'est une explication que je donne maintenant, je ne sais pas si c'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais l'histoire brute, telle qu'on me la raconte, c'est « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre ?» Et j'ai répondu « De la neige. »
Le blanc et le noir, on sait que Pierre Soulages a continué et continue à peindre aujourd'hui des noirs, des outre-noirs, comme vous venez de le dire, Christian Bobin. Vous parlez aussi de la neige, beaucoup, dans vos poèmes. Elle revient comme la blancheur immaculée, la sensation d'infini qu'elle peut nous transmettre physiquement, de manière organique. Vous parlez aussi du néant, vous parlez de ce noir qui nous attend tous à la fin de notre existence. Certains disent que vous êtes un poète mystique. Vous parlez des anges que vous rencontrez, vous ne parlez pas de Dieu, vous ne parlez pas de paradis, vous ne parlez pas de purgatoire. Croyez-vous en Dieu ?
Bien oui, parce que je respire. Et respirer ne peut pas se faire, qu'on le sache ou non, sans croyance. Respirer demande une volonté, mais surhumaine. Le naturel a comme soubassement le surnaturel. Vous voyez ? La respiration, la simple respiration physique, ou le travail d'une aubépine, ce travail ou d'une rose trémière, ce travail des fleurs en haillons, ce travail qu'elles font d'aller vers la lumière est un travail à la fois physique, qui peut certes être mis en équation, qui peut être transcrit en chiffres, mais qui en vérité est absolument indissociable d'un élan surnaturel, spirituel. Donc oui, je crois en cette vie dont j'éprouve le socle qui n'est pas tout à fait et uniquement biologique. Je peux pas dire plus, mais je crois en cette vie pour en éprouver presque à chaque seconde de respiration ou de rencontre humaine d'un humain, pour en éprouver le socle qui n'est pas inerte et qui n'est pas si silencieux qu'on le croit. Je peux guère dire plus.
Nous avons demandé à l'écrivaine, poète aussi, Sylvie Germain, de parler de votre œuvre. Écoutez ce que dit Sylvie Germain de vous, Christian Bobin.
Je ne sais pas quelle est exactement la manière de Christian Bobin d'envisager l'écriture, mais il a un rapport aux mots éminemment poétique. Il y a dans sa démarche, même dans sa présence au monde est extrêmement poétique, dans un sens fort. Et les mots, il les prend, il les cueille avec, on sent une sorte, à chaque fois, mélange de, comme d'étonnement, de candeur et de grand sérieux. Il prend les mots au sérieux, voilà. C'est pas du tout ce qui est à l'heure actuelle plutôt très bien vu dans une manière d'écrire, presque orale. Ça n'a rien à voir. Sa démarche, les mots, il leur fait dire exactement ce qu'il a envie d'entendre, c'est-à-dire comme s'il les faisait teinter, vous voyez, comme si le petit marteau qui fait du musicien qui frappe pour faire teinter le diapason, en fait. Mais il y a aussi un grand souci des mots et une écoute des mots. Oui, j'aime bien ce terme d'écoute, faire sonner les mots, et pas seulement au niveau du son, mais bien sûr au niveau du sens, de par l'étymologie des mots et toutes les ramifications de sens qui peuvent se produire. Ouh, c'est difficile, comme quelle question lui poser. D'ailleurs, j'imagine qu'à la moindre question qu'on lui poserait, il va répondre avec un formidable éclat de rire dont il a le génie. Non, j'avoue que là, j'ai pas de questions précises. Je suis prise un peu au dépourvu et c'est bien parce que Christian Bobin, en général, prend le lecteur assez au dépourvu. C'est là où il peut être très, très fort avec des phrases qui surprennent, j'ai pas tant de questions à lui poser que lui demander de continuer, lui, à nous poser des questions à sa façon à lui.
Alors nous venons d'entendre le témoignage de Sylvie Germain sur votre manière d'écrire, Christian Bobin. Effectivement, des questions, on n'a pas tellement à vous en poser, parce qu'il suffit de vous lire. Et quand Sylvie Germain dit qu'on va d'étonnement en étonnement, vous ne cherchez pas l'enchaînement des sens, vous ne cherchez pas à déployer le sens du monde, vous ne cherchez pas des explications à nos existences,
surtout
non.
Surtout pas.
Je crois, en tout cas, si je vous lis à peu près correctement, que ce qui vous meut, c'est l'étonnement devant le monde. C'est que le monde continue pour vous et que chaque matin soit un recommencement. Ce qui vous meut aussi, peut-être, c'est votre fréquentation du monde des disparus. Je ne sais pas si c'est parce que votre mère, lors de l'enterrement de votre père, avait mis dans la poche de la veste de votre père une photo d'elle avant que le cercueil ne soit refermé, mais vous savez parler à ceux qui ont disparu, à celles et à ceux qui ont disparu. Pourquoi et depuis quand ?
Je sais leur... J'exprime une gratitude pour ce que vient de dire Sylvie Germain parce que je me retrouve aussi dans ce qu'elle dit. Et quand j'étais, je vais répondre à votre question, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai beaucoup rêvé dans les orchestres à celui qui joue du triangle, voyez, c'était le sommet de mon ambition, à être celui qui joue d'un tout petit morceau de triangle. Il n'y a pas longtemps, j'entendais, avec la fenêtre ouverte sur la forêt, j'ai entendu teinter les aiguilles d'une horloge de mairie, perdue dans les bois. Et pour moi, c'était une saveur, mais inouïe, aussi profonde que celle donnée par deux notes de Jean-Sébastien Bach. Les disparus ne sont pas disparus. Les disparus ne sont pas disparus. Et nous-mêmes, nous sommes pas si présent que ça. Les choses s'échangent, vous voyez ce que je veux dire ? Nous tremblons, nous, dans notre existence, dans nos apparences. Et les morts tremblent aussi dans leur disparition. Et ces deux tremblements, parfois, croisent leurs ondes, comme des ondes qui viennent en sens inverse sur une eau très calme. Et je ne sais, c'est pas tant que je parle à ceux qui ne sont plus là et que j'ai aimé, c'est que je les entends. Je précise, je n'entends pas des voix, mais j'entends, est-ce qu'on peut dire une chose aussi paradoxale, j'entends leur silence. Donc leur silence n'est pas rien. J'entends c'est extraordinaire la mort, c'est extraordinaire. Parce que quand quelqu'un a disparu, pour peu que vous l'ayez aimé ou que vous ayez reçu de lui, ne serait-ce qu'une poussière d'amour, vous recevez l'or tout entier ensuite, après sa mort. C'est-à-dire que la personne s'est dépouillée par force de ce qu'on appelle le caractère, de ce qu'on appelle les ombres, de ses ombres, ce qui pouvait provoquer des tensions. Et il y a une immense douceur qui vient après la douleur. Il y a une immense douceur. Et c'est ce bruit, mais comme un ressac de l'océan que j'entends. C'est cette... Mon père avait, parmi d'autres personnes qui ne sont plus, mon père avait il avait comme un foyer au bord des lèvres. Il avait un sourire aux lèvres et dans les yeux. Eh bien, ce sourire, on a beau mettre un paquet de terre dessus le visage, ce sourire n'en finit pas de m'arriver. Ce sourire n'en finit pas de m'arriver. C'est le sourire qui fait le fil entre les présents et les absents, me semble-t-il. C'est ce sourire. Il ne vient pas tout de suite. C'est plutôt les cris et parfois des hurlements qui peuvent venir. Je ne dis pas que les choses sont simples, mais je pense que la vérité finale, c'est-à-dire qui ne finit pas, la vérité de cette chose que je ne sais pas comment nommer, mais qui ne finit pas, elle ne finit pas exactement comme un vrai sourire ne finit pas. Vous l'emportez avec vous et vous accompagne. Et vous en retrouvez des traces, vous en retrouvez des dépôts comme ça, ici ou là dans la vie. Nous sommes tous voisins les uns des autres, présents, absents. Hommes, femmes, bêtes, arbres. Nous sommes tous, sans nous en rendre compte, en train de nous échanger des secrets. Nous sommes comme des sourds qui s'échangent des paroles. Voilà. Et on peut arriver parfois à lire sur les lèvres.
Rimbaud a immortalisé la poésie comme art de la voyance et j'ai l'impression que vous êtes vous aussi un voyant, Christian Bobin. Vous voyez des fenêtres là où il n'y en a pas, vous rencontrez des anges là où on n'en voit pas, vous savez parler aux geais, vous savez caresser les daims, vous savez faire des tas de choses que nous ne saurons jamais faire.
Oh, je ne sais pas plus que vous, Laura Adler, voir, être voyant, comme vous dites, c'est très beau cette expression, mais être voyant, c'est juste voir ce qui est, ce qui est. Non pas ce qui va venir, non pas un au-delà, mais voir ce qui est, ce qui vous fait face. C'est juste ça. C'est tout. Voir, mais voir vraiment la présence qui cherche votre présence à vous. Voir, c'est répondre à quelque chose qui vous est lancé. Et moi, ça peut m'être lancé par un poème dans un livre, mais ça peut m'être lancé par une fleur, ça peut m'être lancé par je ne sais quel détail d'une peinture. C'est voilà, voir, c'est répondre. C'est toujours une question de langage et de fraternité profonde, humaine et rien qu'humaine.
Vous savez écouter aussi, Christian Bobin. Voici ce que vous écrivez dans votre dernier livre, La nuit du cœur. Je vous cite. Pour comprendre quelqu'un, il faut le séparer de ce qu'il dit, prendre garde aux variations du souffle, à cette architecture monacale du silence que chacun construit en parlant. Donc on parle toujours pour ne rien dire.
Non, pas toujours. Non, pas toujours. Non, non, non. Et j'espère que ce soir on a échappé à ça. Non, non, pas toujours. Et quand on parle pour ne rien dire, on ne fait rien. On est même moins qu'un brin de paille sur l'eau. C'est très joli, un brin de paille. On est moins que ça. Mais quand on parle vraiment, tout est là. Et tout le monde est là.
Savez-vous ce que vous faites vraiment? Et quelle est la part d'abandon de votre travail?
Elle est de plus en plus grande. Elle est de plus en plus grande.
Parce qu'à la fin de votre livre, vous dites « Je n'ai pas décidé d'écrire ce livre, pas plus que je n'ai choisi la vie que je mène au fond d'une forêt, dont les arbres chaque nuit s'approchent de la fenêtre, toutes griffes dehors. » C'est pas vous qui décidez alors?
Non, c'est pas moi qui décide, non, non. Mais je vous dis, je fais que répondre. Je fais que répondre. Le premier choc, la première parole, ce n'est pas la mienne. C'est quelque chose qui me vient du dehors, qui vient vers moi, et moi j'en suis simplement le scribe. Je suis le petit secrétaire de la vie. J'essaye de l'être.
Êtes-vous un enterré vivant?
Mais dites pas des choses comme ça.
Mais j'en fais
en pleine nuit d'hiver. Oh mon Dieu.
Je ne fais qu'avoir lu un livre de Christian Bobin, oui. Le dernier, oui. La nuit du cœur. Voilà ce que vous écrivez, c'est absolument extraordinaire d'ailleurs, mais c'est pas drôle. Les enterrés vivants font des courses dans la grande surface.
Oui.
Je suis l'un d'eux.
Oui.
Perché sur les poutres métalliques, les aigles de l'apocalypse nous regardent.
Oui. Ça donne pas très envie d'aller au supermarché. Alors dans ce sens-là, oui, j'avais oublié cette expression. Dans ce sens-là, je suis enterré vivant comme chacun de nous quand nous sommes absents de notre tâche, comme quand nous faisons quelque chose de façon morne. Vous comprenez? De façon morne et
morne, c'est-à-dire quoi? Répétitive.
Morne, c'est-à-dire éteint. Quand nous sommes des foyers éteints, quand nous faisons des choses. Parce que il n'y a pas de lieu particulier pour une révélation ou une vision. Tous les lieux potentiellement peuvent receler un trésor. Mais si nous sommes rogues, si nous sommes ternes, si nous sommes endormis complètement, là oui, nous sommes des enterrés vivants. Mais heureusement, nous passons notre temps à ressusciter.
Dernière question, Christian Bobin. Vous m'emmenez à Conques?
Très volontiers. Très volontiers.
Ben, merci infiniment, en tout cas. Je rappelle que votre dernier livre vient de paraître chez Gallimard et qui s'intitule « La nuit du cœur ».